France Culture.
Réplique, l'accident de Jean-Paul Kaufmann avec Jean-Paul Kaufmann. Interroge à la radio sur mes livres, écrit Jean-Paul Kaufmann dans L'Accident, j'éprouve, une fois l'émission terminée, un profond sentiment de découragement. La malédiction du langage a encore frappé. Une fois de plus, le verbe m'a manqué. J'ai échoué à formuler ce que je voulais faire passer. Mon expression orale n'est pas fiable. Je ne puis compter sur elle. Le soupçon constant que j'entretiens à son endroit est loin d'arranger les choses. Nous ne nous faisons pas confiance. Certains se plaignent que les mots dépassent leurs pensées. Cela ne risque pas de m'arriver. Les mots, chez moi, demeurent toujours en deçà. Je remercie du fond du cœur Jean-Paul Kaufmann d'avoir surmonté sa méfiance et vaincu son appréhension pour parler avec moi, qui n'est pas moins le trac que lui, devant un micro. Le jeu, je crois, en vaut la chandelle, car L'Accident est un livre magnifique qui suscite beaucoup de questions. Et d'abord celle-ci, que signifie le titre que vous avez choisi, Jean-Paul Kaufmann ?
D'abord, je pense que vous avez pris des risques énormes après avoir cité ce passage. Page 37. Pourquoi ce titre, L'Accident? Eh bien, c'est un titre évidemment ambigu, comme les bons titres peut-être, un titre polysémique. L'accident, c'est évidemment l'accident d'abord au point de départ qui a eu lieu dans ce petit village d'Ille-et-Vilaine le 2 janvier 1949. 18 jeunes hommes partis disputer un match de football vont trouver la mort. Nous sommes dans les années d'après-guerre et dans ce village, c'est un tel traumatisme qu'on n'en parlera pratiquement jamais. Et c'est quelque chose qui, c'était comme on disait pour l'Alsace-Lorraine, y penser toujours, n'en parler jamais. Et il est évident que cet accident qui a eu lieu à Martigné-Ferjeau, un petit village qui se trouve à côté de ce village de Cornu où j'ai passé mon enfance. Évidemment, cet accident est lié, j'allais dire, apparemment ils n'ont pas de rapport, mon accident libanais, et en fait, je pense qu'ils sont accolés l'un à l'autre et presque indissociables. Alors, c'est à la fois deux chocs, deux traumatismes, à la fois imprévisible et attendu, si l'on croit, comme on dit, à la force du destin et à son caractère irrévocable. Donc, cet accident des 18 jeunes hommes ponctue tout mon récit.
Oui, parce que vous y revenez plusieurs fois, six reprises, je crois. Vous élucidez peu à peu l'accident, il y avait 18 hommes et le chauffeur du car Dodge, un car qui était comment dire un des symboles du plan Marshall.
Oui.
C'était une voiture américaine et Marcel Martin, donc le chauffeur, un tout jeune homme, était selon le vocabulaire de l'époque un peu énervé. Autrement dit, il avait bu dans les différents cafés, et il roulait trop vite. L'accident est terrible, il s'est échoué le camion dans la rivière, et en effet, il y a ce chiffre absolument énorme de 18 victimes. Marcel Martin lui-même a survécu,
oui.
Mais c'est d'ailleurs un moment assez terrible, c'est-à-dire que il est très affecté. Dans un premier temps, ce qu'il trouve à dire dans l'eau, mon camion, mon camion. Et dans un deuxième temps, lors du procès, car il y a quand même un procès, il semble bouleversé. Mais d'un autre côté, il est condamné à un an de prison, des milliers de francs d'amende, et il fait appel. D'ailleurs, ensuite, je crois que la peine est confirmée, mais très vite, il sort de prison et il va s'établir, je crois, dans la région parisienne. Mais cet appel m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire que c'est comme si il n'était pas totalement convaincu de sa culpabilité, alors même que elle semble très engagée dans cette histoire.
Oui, alors il invoque la fatalité. Alors, évidemment, cette figure m'a beaucoup intrigué. Parce que je crois aussi à la rédemption. Et je me suis dit, comment on peut vivre, évidemment, je prends en compte le drame de ces familles, de ces 18 jeunes hommes, et toutes les souffrances qu'il a pu infliger. Mais en même temps, je cite ce journal détective qui rend assez bien compte à l'époque de la réalité de cet accident. Et qui n'accable pas tout à fait, d'ailleurs, l'auteur, Marcel Martin. Alors, c'est la question qu'on peut se poser. Comment peut-on vivre après un tel drame? Comment va-t-il refaire sa vie? Parce qu'en effet, il en a réchappé, il a été condamné, il a fait un an de prison, et c'est terrible. Alors, j'ai essayé, en effet, je ne veux peut-être pas... c'est la fin de mon livre, j'ai essayé de retrouver sa trace.
Oui.
Et ça a été très difficile pour moi, j'y suis parvenu. Évidemment, il était décédé depuis un certain temps, et j'ai certainement côtoyé, parce que je passe beaucoup de temps à Saint-Malo, et il a vécu à Saint-Malo. Je l'ai certainement côtoyé, il est mort en 2008, et j'ai voulu retrouver sa fille.
Et vous l'avez retrouvée?
Je l'ai retrouvée, en effet.
C'est le suspense du livre, oui.
C'est la fin de ce livre.
Oui.
Parce que je pense aussi que on n'est pas lié à jamais à une faute qu'on a commise.
Oui.
Et pourtant, notre époque est impitoyable à l'égard de ceux qui ont commis une erreur, une bévue, une faute, quelque chose de très grave.
Oui.
Donc voilà. C'est cela aussi mon livre. C'est un livre de réconciliation.
Un livre de réconciliation. Mais alors, justement, c'est aussi un livre où vous marquez votre affection pour cette parenthèse bénie qu'a été votre enfance dans un village français. Et là, c'est un peu étrange, parce que je me demande pourquoi vous avez placé votre enquête sur une enfance somme toute heureuse sous le signe de cet événement tragique. On se pose forcément la question.
Évidemment, cette histoire, tout cela, ce que je raconte au fond, c'est une enfance qui s'arrête à 11 ans.
Oui,
après,
quand vous
êtes
pensionnaire.
Voilà, ça c'est tout à fait autre chose. Donc, c'est une enfance qui se déroule dans un monde rural. Un monde rural qui, dans ces années d'après-guerre, on est en 1949, n'aspirait qu'à une seule chose, retrouver la vie des années 30, laquelle était pratiquement identique au début de la Troisième République. Et en effet, c'est une France des terroirs, un monde rythmé par les comices agricoles, les fêtes paroissiales, une croyance au surnaturel. Une France où, par exemple, les mariages duraient 3 jours. On n'est pas loin de Madame Bovary, hein. Ces années 1880-1890. Donc c'est un continent perdu, un monde spartiate, austère, et en même temps heureux. Pour moi, qui a été bienfaisant. Parce que je suis désolé, j'ai eu une enfance heureuse.
Oui, ne vous excusez pas. Mais surtout, donc, on a l'impression que l'accident, c'est l'irruption de la fatalité. Et la fatalité, c'est tout arrive. Tout peut arriver, tout arrive. Donc, c'est l'irruption de la fatalité au sein, en effet, d'une enfance heureuse. C'est un peu ça, je crois, le sens de l'accident.
Oui, une enfance heureuse qui m'a sauvé.
Qui vous a sauvé, en plus.
Et qui m'a sauvé par rapport à cet accident libanais.
Oui, c'est vrai, l'accident libanais, vous avez été, en effet, Jean-Paul Kaufmann, enlevé par le Hezbollah. Vous avez passé 3 ans au Liban, dans les geôles du Hezbollah, dans des conditions absolument terribles. Vous ne saviez pas si vous pouviez mourir à tout moment. Vous avez été libéré en mai 1985. Les cloches de votre village ont sonné à ce moment-là, et vous dites, sans mon accident libanais, dont vous reprenez le même terme, alors qu'on pourrait dire ça n'a rien à voir, un accident de voiture et un enlèvement, sans mon accident libanais, je ne serais jamais replongé dans mon enfance. Pourquoi ce lien ?
Eh bien, cette enfance radieuse, enchantée, m'a sauvé dans la mesure où, pendant cette captivité, pendant la journée, c'est une sorte de travail, j'allais dire, de travail de Pénélope à l'envers. C'est-à-dire que je réparais pendant la nuit ce qui se défaisait pendant le jour. Autrement dit, normalement, ma vie nocturne aurait dû être traversée par cette attente de la mort, par cette anxiété. Or, ce n'est absolument pas le cas. Je n'ai fait aucun cauchemar pendant ma captivité. Aucun. Les cauchemars sont venus après. Une fois que j'ai été libéré, mes nuits ont commencé à être agité par ces images, en effet, d'exécutions, de simulacres. 40 ans après, ça s'estompe peu à peu. Mais ce livre, justement, je l'ai écrit par une sorte de dette, par gratitude à l'égard de cette enfance qui m'a sauvé.
Gratitude, le mot est important. Évidemment, ça me fait penser, par contraste, à Annie Ernaux, qui a vécu elle aussi dans un milieu modeste. Vous êtes fils
des commerçants, comme
commerçants
mes parents.
Et il tenait un bar épicerie, je crois, à Yvetot. Vous, c'était donc Cornu. Nous reviendrons sur le nom étrange de ce village. Votre père était donc boulanger. Vous le voyez tel un dieu du feu, une sorte de vulcain. Et il n'y a aucune place pour le ressentiment. Annie Ernaux a dit, lors de la réception du prix Nobel, « J'écris pour venger ma race ». Vous, plutôt que la venger, vous lui rendez hommage. Et vous rendez hommage aussi, ce qui est peut-être plus surprenant encore, à cette France d'avant. Vous dites « L'armature cléricale » maintenait l'existence du village. Tout le monde a envie de penser, bah oui, heureusement que c'est fini, heureusement que c'est fini, heureusement qu'on s'est émancipé, qu'on s'est sorti de tout ça, de cette armature cléricale. Armature cléricale, ça fait penser à la répression. Et vous ne niez pas les choses, mais vous les abordez sous un angle, je ne dirais pas nostalgique, nous reviendrons sur ce mot, mais sous un angle affectueux, Jean-Paul Kaufmann.
Oui, en effet, vous avez tout à fait raison d'évoquer la nostalgie, parce que je n'ai pas du tout l'âme nostalgique. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'était mieux avant.
Oui, oui, ça vous le dites d'ailleurs, c'était mieux avant, mais non, c'est une illusion répétée depuis 2000 ans, c'est beaucoup mieux ici et maintenant, seul le présent rassasie. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la tonalité de votre livre, mais continuez Jean-Paul Kaufmann.
Moi, je pense qu'en effet, la première fois, c'est toujours la dernière fois. Et elle ne se reproduira jamais. Et je pose la question, quel intérêt à retrouver adulte ce monde d'avant, un monde gris, triste, inconfortable, et finalement, un monde qui sera délesté de ce qui sera la suite, car au fond, c'est cela qui est délectable, ce qui a eu lieu entre ce moment passé et ce que nous sommes devenus. Pour moi, le passé est passé, il est accompli, je dirais révolu, clos, et il ne reviendra pas. Et comme je le disais tout à l'heure, Jean Kelevich a dit des choses beaucoup plus définitives là-dessus. Les choses n'existent qu'une seule fois, et je dirais que chaque première fois, en fait, est la dernière fois. Finalement, on peut se poser aussi à travers ce livre la question, justement par rapport à la nostalgie, à supposer que cette possibilité de retour s'accomplisse et à supposer que cette nostalgie ne soit pas empêchée, que ce passé nous soit rendu, qu'adviendrait-il ? on n'aurait que déconvenu, ennui et, je dirais, souffrance. Donc, pour moi, la nostalgie, bon, à l'origine, c'est un mot, bon, vous savez ça aussi bien que moi, c'est le mal du pays. Le mal du pays, on peut y remédier au moyen du retour à la patrie. Tandis que la nostalgie des modernes, c'est tout à fait autre chose. Au fond, c'est désirer un moment dans lequel nous ne retournerons jamais. Et c'est pour ça que je ne suis pas nostalgique, et à la nostalgie, je préfère ce que j'appelle le nevermore, le côté irréversible. La page est tournée, n'y revenons pas. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi aussi, je reste fidèle à l'homme souffrant que j'ai été. Ça a eu lieu, et c'est pour ça que cette injonction de la mort fatie, pour moi, parle beaucoup, parle énormément, c'est-à-dire ne t'attarde pas à ce qui t'a fait mal ou à ce qui te manque. Dépasse le ressentiment. Cet homme souffrant qui dans les cassettes appelait à l'aide, c'est pas mon double, c'est moi. Et je pense que je dois rester loyal à cet homme-là, parce que c'est moi.
Oui, mais cet enfant heureux, c'est aussi vous. Et alors là, je veux qu'on s'arrête à la nostalgie, avant d'en venir à cette armature cléricale et à l'enfant de cœur que, en soutanine rouge et en surplis blanc, que vous avez été, Jean-Paul Kaufmann. Alors la nostalgie, oui. Et c'était mieux avant. On n'a pas le droit de le dire aujourd'hui. Alors, naguère, je l'ai dit, et je vous donne quelques exemples parce que vous m'avez vous-même stimulé. Les vaches, les poules, les cochons vivaient mieux avant l'élevage concentrationnaire. La culture, c'était mieux avant le tout culturel. La République, c'était mieux avant les territoires perdus. Le vivre ensemble, c'était mieux quand le mot n'existait pas. La conversation dans les cafés, c'était mieux avant la musique d'ambiance. Les mannequins, c'était mieux avant qu'on leur demande de défiler en faisant la gueule. Les boulangeries, c'était mieux, les boulangeries, quand elles vendaient des croissants ordinaires. Les cailloux du petit pousset, c'était mieux que le clavier de petite poussette. Les rues, c'était mieux avant le téléphone portable, les autobus et les salles de classe aussi. Et vous m'avez stimulé parce que je lis votre livre et je me dis, cornu, c'était mieux avant qu'il ne devienne un bourg périurbain de l'agglomération de Rennes, de la métropole de Rennes, végétalisé. La province, j'ai été provincial, c'était mieux que les territoires. Et la campagne, c'était mieux avant sa mise en coupe réglée par le remembrement. Et puis, le monde que vous avez connu, c'était mieux qu'un monde placé sous l'hégémonie marchande, pour reprendre une expression que vous avez dans votre réflexion avec Peggy. Donc, on se dit beaucoup que oui, peut-être c'était mieux avant. Peut-être que vous dites adieu à une réalité, un monde disparu, mais qui n'a pas été remplacé par mieux que lui. C'est ce qu'on est amené à se dire en lisant votre livre. Alors vous refusez la nostalgie, vous refusez le « c'était mieux avant », mais d'un autre côté, vous l'évoquez vous-même et vous amenez le lecteur à se dire cela, à pousser une sorte de soupir devant ce monde disparu. Jean-Paul Kaufmann.
Mais oui, mais il est passé, il est révolu. Vous connaissez le livre de Michel Serres, ce petit livre très drôle et très stimulant. C'était mieux avant. Ça s'appelle « C'était mieux avant ». Oui. Et il dit « Ça tombe bien, avant j'y étais ». Je peux faire mienne ces paroles. Avant, moi aussi, j'y étais. Et je peux dresser, dit-il, un bilan d'expert. Mais je ne peux pas regretter ce monde-là en même temps, ce monde qui était, oui, en effet, gris, inconfortable. Il faut quand même pas oublier, Alain Finkielkraut, que bon, l'espérance de vie dans ces années-là, dans ce monde que je décris, elle était à tout casser, disons, de 60, 62 ans. Elle est aujourd'hui de 80, 82 ans. Il n'y avait pas d'analgésique, il fallait supporter la douleur. On mourait de la tuberculose, de la méningite, de la variole, et ne parlons pas de l'hygiène. Le seau à charbon, les draps humides, moi j'ai connu tout cela. Et donc je ne peux pas regretter ce monde. Alors je dis un monde en noir et blanc. La couleur, finalement, on va la connaître au milieu des années 60. Disons autour des années 65, là, le monde va basculer. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Henri Mandras a appelé la seconde révolution française. Mais moi, à cette époque-là, je ne connais pas la suite du film. Donc, nous sommes dans ces années-là, dans une période où on est quand même confronté durement au réel. C'est vrai qu'on vivait ensemble. On s'entraidait, le sens de la solidarité n'était pas un vain mot, mais aussi, bon, on se surveillait, on s'épiait. La contrepartie de tout cela, c'était cela. Donc, ce monde d'avant, je ne peux pas le regretter.
Vous ne regrettez pas. Vous dites quand même, je suis un pur produit de la province française. Ce mot de provincial aujourd'hui si déprécié, je le revendique. Je déteste le mot de territoire. Et vous dites aussi quelque chose d'intéressant. Dans une époque, dit-on, sensible à l'écologie, vous viviez à une époque justement où l'individu échangeait encore avec la nature sans volonté de la dominer ou de la détruire. Mais vous avez mis les choses au point. Avançons un peu. Ce qui est frappant dans le monde que vous décrivez, villageois, c'est effectivement la place de la religion, la place du christianisme. Et d'ailleurs, deux personnages sont très présents dans votre livre. Le père Brionne, qui était le curé de votre village, un curé assez effrayant, mais dont vous dites qu'il vous a fait rêver et qu'il a illuminé votre enfance, et votre cousin, Georges Rousseau, qui était, lui, beaucoup plus ouvert oui. au monde, et vous balancez entre les deux, mais ça veut dire tout de même que le christianisme était au cœur de votre vie, Jean-Paul Kaufmann.
Ah oui, il a joué un rôle, et il joue un rôle toujours extrêmement important, mais oui, parce que Brionne, en effet, qui pourrait passer aujourd'hui pour un prêtre conservateur, m'a fait entrevoir quand même une forme de la beauté et une dimension nouvelle du langage. Il faut dire quand même que c'était, à cette époque-là, bon, on pourrait appeler ça un christianisme de la peur. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dans une, ce qu'on pourrait appeler une pastorale de la trouille. Dieu a créé le monde, mais le monde perverti par l'homme est devenu le lieu du mal. Et on était marqué par ce péché originel, hein, par la peur de l'enfer. Moi, quand j'étais enfant, la peur de l'enfer, Satan, le démon, c'est quelque chose qui me faisait peur. Je pense que le démoniaque est toujours là, mais bon, il n'a pas disparu. Mais en tout cas, cette enfance a été marquée par cette peur. Il était peu question à l'époque de la force libératrice de l'Évangile. Moi, je l'ai découverte après. Ce retournement radical de l'Évangile, je l'ai découvert après, devenu adulte. Mais pour moi, ce christianisme, c'est un christianisme de la peur, oui. destiné aux adultes, oui, d'où ça. Étaient exclus les enfants.
Oui, et en même temps, ça vous fascinait. Alors vous dites pourtant qu'en effet, cette pastorale de la trouille est à l'origine du recul de la pratique religieuse, et vous rappelez que lorsque Brionne prononçait en latin la formule « Le diable comme un lion rugissant rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer », il le faisait avec une sorte de malice.
Oui.
Il inspirait la terreur, cet homme. Il inspirait la terreur, mais vous ne lui en faites pas grief aujourd'hui. Il vous faisait rêver. Alors, en même temps, tout ce que vous dites dans votre livre et dans notre conversation me rappelle une phrase tout à fait extraordinaire d'André Frossard. Le drame de la gauche, c'est qu'elle ne croit pas au péché originel. Le drame de la droite, c'est qu'elle ne croit pas à la rédemption. Et vous essayez, vous avez pris des leçons sur la question du péché originel, mais vous l'avez dit d'ailleurs, la rédemption tient une grande place dans votre façon d'aborder les choses, et vous dites, même pour Marcel Martin, l'auteur de l'accident, il faut croire en la rédemption. Mais c'était pas du tout le problème de Brionne, qui lui ne s'installait en quelque sorte dans le péché originel.
Bah oui, je pense que la rédemption est une des plus belles inventions du christianisme, cette façon de déculpabiliser les gens et de les réconcilier entre eux. Et donc, à cette époque-là, évidemment, il n'était absolument pas question de cela avec Brionne. Vous voyez, tout ce côté subversif de l'évangile, on n'en parlait pratiquement pas. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tant lui l'autre joue, ça c'était quelque chose dont on parlait assez peu. Hein. Vous voyez, nous devons aimer nos ennemis. Non seulement vous devez aimer votre prochain, mais vous devez pardonner à vos ennemis, mais vous devez les aimer. Mais c'est absolument...
C'est impossible.
Impraticable.
Vous n'aimez pas vos geôliers du Hezbollah. Et vous ne les aimez toujours pas, Jean-Paul Goffman.
Non, mais j'ai pardonné non pas par... Je le dis souvent. J'ai pardonné non pas pour me conformer au message évangélique, mais... purement et simplement par hygiène mentale. Parce que je pense que la volonté de vengeance est un acide, c'est quelque chose qui corrode votre être. Et finalement, c'est une nouvelle violence que vous instaurez en vous. Et ça, je l'ai extirpé.
Un ultime mot sur la nostalgie, avant que nous poursuivions cette conversation. J'ai en tête cette... réflexion de Nicolas Gomez-Davila. Nos contemporains dénigrent le passé pour ne pas se suicider de honte et de nostalgie. Je la livre à votre réflexion, Jean-Paul Goffman. Mais pourquoi, j'en reviens au père Brionne, pourquoi dites-vous que cet homme terrifiant vous a fait rêver? Pourquoi dites-vous qu'il a illuminé votre enfance? C'est ça qui me paraît... très impressionnant.
Je cite un moment cette réflexion d'un penseur italien que je trouve assez juste, Perniola, qui dit « L'essence du catholicisme n'est pas le croire, mais le sentir.
Oui. »
Et je pense que, d'abord, le christianisme est une religion de l'incarnation. Je pense que le corps a une extrême importance. Je dis en effet que dans l'accident, qu'il y a deux lieux qui m'ont formé, évidemment, la boulangerie paternelle et aussi l'église, deux lieux qui m'ont éduqué. Alors, il faut bien dire aussi, et c'est là aussi peut-être l'église, le catholicisme de Brionne, c'est un catholicisme tridentin, j'allais dire. On est avant Vatican II. Je parlais tout à l'heure de 1965. 1965, c'est la fin de Vatican II. À cette époque-là, on vivait donc dans cette espèce de d'apparat où, en effet, les cinq sens sont mis à contribution, l'orgue, l'encens, l'olfaction. Tout cela, dans le fournil, l'olfaction joue un rôle important, mais dans l'Église aussi, la solennité. Et vous voyez aussi, ce qui était remarquable, c'était le contraste dans ce petit village d'Ille-et-Vilaine, dans ce pays gallo, un peu renfrogné, ce contraste entre le prosaïsme de notre vie et aussi, dans ses offices, quelque chose qui ressemblait, j'allais dire, à une forme d'élévation par ces offices grandioses, par cet apparat, par toute cette solennité qui, je crois, faisait réfléchir les gens, les paroissiens. Il y avait un tel décalage entre ce faste romain, dirions-nous aujourd'hui, et puis nos vies un peu tristes, un peu quotidiennes, et ça nous interpellait. En tout cas, moi, ça m'interpellait. C'est la raison pour laquelle aussi, à la fin, l'Ite Missaes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, l'orgue tonnait et on accédait à l'air de l'extérieur un peu hébété après ce moment passé dans cette église. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, évidemment. Donc, ces deux lieux formateurs, l'église et le fournil. Ne jamais oublier le fournil paternel. Et je dis, on n'en a peut-être pas assez parlé, je pense que le fournil, la boulangerie paternelle, m'a amené au métier de journaliste.
Ah oui.
Je pense. Parce que je pense, la boulangerie paternelle, pour moi, était un laboratoire des cinq sens. Et je pense que dans le métier de journaliste, on ne parle pas assez de l'importance du corps. C'est très important, le corps. Quand vous arrivez quelque part en reportage, c'est les cinq sens que vous mettez à contribution. Vous serrez la main, il y a le contact tactile avec le témoin, votre interlocuteur, la lumière, l'odeur de la maison. Tous ces capteurs tournent à plein régime. Vous voyez, l'olfaction, ça n'a l'air de rien parce que on parle du journalisme. On n'a pas parlé du sixième sens du journaliste, le flair.
Le flair, évidemment.
L'intuition,
vous avez raison, oui.
Sentir. Vous voyez, quand on dit en reportage, je le sens pas, je le sens pas, vous voyez, c'est toujours le sens olfactif, pressentir, subodorer. On y est en plein. Donc, c'est la raison pour laquelle l'olfaction joue un rôle. Mais l'olfaction qui doit, tous ces sens-là doivent communiquer entre eux, ne pas être séparés. L'œil écoute, hein, vous connaissez le livre de Paul Claudel. Vous voyez, on parle de la texture de la voix, etc. Donc, il y a toujours une relation entre ces cinq sens-là. Je pense que je suis devenu journaliste par cette église et par ce fournil.
Et par ce fournil.
C'est paradoxal.
C'est paradoxal. Mais évidemment, d'ailleurs, c'est Jérôme Garcin qui dit de vous que vous êtes un écrivain olfactif. Il a raison. Il y a l'odeur dorée du pain. Et vous parlez aussi dans votre livre de l'odeur des paysans. Il y avait des paysans, mais au village, les boulangers ne se mélangeaient pas trop avec les paysans. Sauf que votre père allait...
Oui, les portages de pain.
Faire des portages de pain. Et vous dites, ces hommes de la terre laissaient dans le sillage des flagrances patinées et rustiques. Donc effectivement... L'odorat est omniprésent. Vous dites même à un autre moment du livre que, paraît-il, une odeur excrémentielle flottait sur Versailles, sur le château de Versailles au temps de sa splendeur. Donc on voit, l'odeur compte beaucoup pour vous. Ce qui compte aussi, il y a l'apparat de l'église, mais il y a aussi, dans votre livre, un éloge de la monotonie des jours. Les événements les plus marquants, dites-vous, de votre enfance, sont ceux qui se répètent. Nous ne vivions bien que dans la redite des jours. Et cette réflexion m'a fait penser à un passage magnifique de l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Il dit « La vie au paradis ne ressemblait pas à la course en ligne droite qui nous mène dans l'inconnu. » Ce n'était pas une aventure. Elle se déplaçait en cercle entre les choses connues. Sa monotonie n'était pas ennui, mais bonheur. Tant que l'homme vivait à la campagne, au milieu de la nature, entouré d'animaux domestiques, dans l'étreinte des saisons et de leurs répétitions, il restait toujours avec lui, ne serait-ce qu'un reflet de cette idylle paradisiaque. Et alors, il y a un passage que je voudrais lire, il est tout à fait extraordinaire, à la fin de ce petit chapitre. Donc, les deux héros sont à la campagne, effectivement. Quand le président de la coopérative allait promener son Méphisto, c'était son cochon. Il avait un cochon apprivoisé. Après le travail, et rencontrait Teresa, il n'oubliait jamais de dire « Madame Teresa, si seulement je l'avais connue plus tôt, on aurait couru les filles ensemble. Aucune femme ne résiste à deux cochons. » À ces mots, le cochon poussait un grognement. Il avait été dressé pour ça. Teresa riait, et pourtant elle savait une minute à l'avance ce qu'allait lui dire le président. La répétition n'enlevait rien de son charme à la plaisanterie. Au contraire, dans le contexte de l'idylle, même l'humour obéit à la douce loi de la répétition. Oui, mais donc cette enfance qui a-t-elle la vôtre, du fait même de sa monotonie, avait quelque chose d'idyllique. Et une idylle qui pouvait, à tout moment, être brisée, justement, par l'accident, par la fatalité de l'accident, Jean-Paul Kaufmann.
Oui, je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit ou lu. C'est le monde dans lequel, en effet, j'ai vécu, celui de la répétition, celui qui était le monde de mon père aussi, qui répétait toujours ces mêmes gestes, les mêmes gestes, qui se levaient à la même heure, minuit, et avec ces images qui étaient toujours les mêmes, la pâte, ces images qui tonifient un peu l'imagination active de l'enfant. Hein, vous voyez tout ce monde de l'émulsion, ce monde de la fermentation, qui était toujours le même, c'est vrai, mais c'était toujours un état d'agitation invisible de la matière. Et moi, j'aimais ce monde qui se répétait, vous voyez, cette pâte, l'élasticité de cette pâte qui joue sur les deux tableaux, le liquide et le solide, la pâte, l'éternelle figure, la dialectique du dur et du mou, vous voyez, la synthèse de la résistance et de la souplesse, tout cela, en effet, se répétait indéfiniment, avec, en effet, toutes ces odeurs que j'aimais retrouver. Ces odeurs, en fait, des odeurs, mais qui sont pas très agréables. Oui. Des odeurs de purin, des odeurs de bouse, des odeurs de décomposition, des odeurs archaïques, en effet, très opulentes, robustes. J'aimais, et c'est ça aussi, j'aimais les retrouver. Vous voyez, c'était un monde aussi de reconnaissance. Reconnaissance de toutes ces odeurs-là.
Ah oui.
C'est pour ça que, alors, on dévie peut-être du sujet, c'est pour ça que je me suis intéressé à un homme comme Napoléon. Napoléon avait un grand sens de l'olfaction. C'est très important, vous voyez, c'est l'olfaction chez lui est déterminant. Et c'est quelque chose dont on parle très peu à l'époque. J'ai écrit un livre, La Chambre Noire de
Longwood,
qui est justement un livre sur l'odeur. L'odeur de la captivité.
Donc, Vous êtes allé à Sainte-Hélène, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Et donc, l'odeur de la captivité. Et je crois qu'en effet, Napoléon, la décomposition là, des tropiques, peut-être aussi l'a mis en face le sentiment de sa propre déchéance. Vous voyez, on en revient toujours à cette olfaction. Cette olfaction, et puis on en revient aussi peut-être que... c'est un sujet qui me tient à cœur. L'olfaction, c'est aussi le vin. Pour moi,
oui.
La reconnaissance des odeurs. Communiquer...
Quel vin, vous, c'est le Bordeaux, c'est ça?
Oui, mais enfin, je suis éclectique, je suis ouvert quand même.
Ah bon.
Un amateur est un homme ouvert.
Donc, il vous arrive de boire un bon Bourgogne?
Bah, bien sûr.
Ah bon, vous me rassurez.
Bah, oui, c'est un homme... l'amateur est un homme ouvert.
Bah, très bien.
Et qui reconnaissance des odeurs, c'est très important dans le vin. Reconnaître et communiquer à autrui ce que l'on ressent à travers les odeurs.
Mmh. Alors, dans votre livre, il y a aussi des passages terribles, mais qui ne sont pas pour autant des moments traumatisants. Je veux parler de votre institutrice, Thérèse Malœuvre. Vous avez été un jour puni. Vous faisiez des heures de colle, je crois.
Oui, oui. J'avais été insolent
dans son appartement. Hein,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Et vous n'êtes pas bien conduit. Et elle vous a fichu une terrible torgnole. Ça aurait pu vous marquer à vie. Vous auriez pu d'ailleurs faire un livre de victime sur ce sujet. Ça aurait eu beaucoup d'écho. Mais pas du tout. Vous dites que vous ne lui gardez aucune rancune parce qu'elle a eu ce mérite extraordinaire de vous initier à la langue française, à sa précision et à sa beauté. Alors parlez-nous un peu de cette Thérèse Malœuvre, Jean-Paul Kaufmann.
Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout à fait scandaleux, là, lorsque je décris cette scène, mais c'était la normalité. Moi, j'ai baigné aussi dans ce monde, là, où, on recevait notre lot de gifles. Mon père appelait ça des calottes. Et c'était tout à fait normal. Bah, évidemment, par rapport à aujourd'hui, c'est extrêmement choquant, extrêmement scandaleux. Mais par rapport à cette Madame Malœuvre, je vous ai dit, le livre que j'ai écrit, c'est un livre de gratitude, un livre de réconciliation. Je pense aussi que je n'ai pas la conscience victimaire. Je comprends parfaitement que des victimes aujourd'hui peuvent réclamer vengeance ou réparation. Moi, c'est le contraire par rapport à ces moments là où j'ai subi des corrections. Moi, je retiens la part tout à fait bénéfique, bienfaisante de cette éducation, oui, la langue française, cette façon qu'elle a eue de me la faire aimer, de me l'apprendre, un monde en effet, sécurisant, structurant.
Oui, mais alors, il y a un monde structurant, et aussi ce détail auquel je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu, le nom de votre village, c'est un nom qui fait rire. Et d'ailleurs, vous dites que Cornu a accueilli, en juillet 2023, le Festival des communes au nom burlesque et chantant. Il y avait 25 délégations venues de villages tels que Vatan, Mariole, Nouvoitou, Arnac. 25 délégations, et ça s'est passé à Cornu, qui est quand même un nom assez drôle. Et d'ailleurs, il y a des gens qui venaient devant le panneau de Cornu se faire photographier, même tout nu.
Exactement.
C'est ça qui se passait.
Alors, je ne vais pas dire que j'en ai beaucoup souffert, mais pendant mon enfance, il fallait défendre l'honneur du nom. Dignité de ce village qui s'appelait Cornu et qui nous valait tous les quolibets, toutes les moqueries qu'on peut imaginer. Alors, moi, j'ai baigné, en effet, dans un monde avec ce monde de mon enfance, avec trois impensés. Le nom, Cornu, en effet, l'accident de Martigné-Ferchaud. Et la troisième chose, cette église monumentale.
Avec un bulbe
qui ressemble autour du Kremlin et qui ne correspond absolument pas à ce village du pays gallo. Et donc, ces trois choses-là font que peut-être je me suis toujours senti peut-être un petit peu hors cadre. Il y avait mon nom aussi, Kaufmann, en Bretagne.
Ah oui, et en qui plus.
Voilà.
Donc, beaucoup de gens vous ont pris pour un juif, hein.
Oui.
Après, oui. Et en fait, alors que vous avez une enfance très catholique, Jean-Paul Kaufmann. Oui, il y avait ce nom aussi, mais il y a un autre accident dans votre livre que vous abordez de manière plus discrète, mais quand même, le mot est employé. C'est votre chienne, Stella. Stella, un bulldog fidèle et affectueux, et elle meurt. En effet, dans un accident, et c'est peut-être votre premier contact avec la mort, Jean-Paul Kaufmann.
Oui, en tout cas, avec la mort, ou quelque chose qui est peut-être différent, le sentiment de la finitude.
Ah oui, c'est ça.
Mais donc, oui, ça a été un des grands chocs de cette enfance, la mort de ce bulldog. Oui, alors bon, il y a ces deux événements, en effet. La mort de Stella, cette raclée, mais bon, il n'empêche que cette enfance a été une enfance bienfaisante et heureuse.
Ben oui. Et parmi les moments de bonheur, il y a un petit magazine catholique destiné aux enfants des milieux ruraux, Fripounet et Marisette.
C'est un peu ridicule, hein.
Non, pas du tout, parce que moi, ça me fait penser au conte du chat perché.
Ah oui, de Marcel Aimé.
C'est Delphine et Marinette.
Oui, c'est ça.
Delphine et Marinette. Et moi, enfant de la ville, enfant du 10e arrondissement de Paris, j'ai connu la campagne par Marcel Aimé, par Delphine et Marinette. J'ai commencé là à aimer les vaches, les cochons, les... tout ça. En plus, parce qu'il parlait. Donc, quand j'ai lu Fripounet et Marisette, j'ai pensé immédiatement à Marcel Aimé. Mais qu'est-ce que représentait ce magazine pour vous,
Jean-Paul Kaufmann? Sylvain et Sylvette, c'est vrai que a joué un rôle aussi...
Ah oui, parce qu'il y avait des histoires de Sylvain et Sylvette.
Voilà. Oui, Sylvain et Sylvette, oui, c'est surtout ça qui a, j'allais dire, marqué mon enfance. Et surtout... quelque chose qui était un peu énigmatique pour nous, là, parce que ces deux héros qui vivaient dans un monde qui pourrait s'apparenter à celui des contes de Perrault, vous voyez, ils vivaient à la campagne en compagnie d'animaux, mais persécutés par ce qu'on appelait les compères, c'est-à-dire les figures maléfiques, le loup, le renard, l'ours et le sanglier.
Ah oui.
Et c'est la première, je ne veux pas dire apparition, mais on ne savait pas ce que c'était le mal. Le mal. Pourquoi ces personnages, ces compères, persécutaient-ils nos deux héros? On ne savait pas très bien pourquoi. Qu'est-ce que le mal? Le contraire du bien? Mais fallait-il encore le qualifier? Donc, cette révélation du mal, de la bête, du non contrôlé, avait quelque chose de mystérieux, d'énigmatique, puisque, paraît-il, aujourd'hui, l'essence du mal, c'est qu'il n'y a pas de pourquoi.
Oui, c'est ce que... ici, parce que c'est-à-dire que ça vient de l'expression d'un gardien du camp d'Auschwitz qui disait « Ici,
oui,
il n'y a pas de pourquoi ».
Il n'y a pas de pourquoi. Oui.
Mais en même temps, on est forcément amené à se poser la question. Évidemment, il y a même le nazisme. On cherchera éternellement le pourquoi de ce déchaînement de haine industrielle en plus. Non, la question du pourquoi se pose. Et donc, c'est la première fois avec... Fripounet et Marisette, et en l'occurrence Sylvain et Sylvette, que la question du mal est apparue dans votre vie,
oui.
Paul Kaufmann.
Oui, oui, avec toujours aussi cette attente, vous voyez, parce que c'était, nous attendions, et c'était quelque chose de très important dans cette enfance, l'attente. Vous voyez, c'était un hebdomadaire, et les enfants imaginaient la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ce pot commun, ce sentiment de solidarité que nous avions entre enfants est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué.
Très bien. Ben, nous terminons là-dessus. Merci beaucoup Jean-Paul Kaufmann. J'espère que cette émission vous a un peu réconcilié avec la parole.
Ah, c'est à vous de me le dire.
Ah ben ça, je peux vous le dire. Absolument. Et donc, je rappelle le titre de votre beau livre, L'Accident, il est publié aux éditions des Équateurs. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Clément Vuillet. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Les Jeux du Cirque Médiatique. Mes invités seront Laurent Nunez et Thibaut Ress. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.